Et c'est le journal de Marc Fauvel. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, des révélations en rafale. Nouvelle salve des Paradise Papers. Cette fois, c'est le groupe Dassault qui est pointé du doigt. Encore une affaire de paradis fiscal. Encore une fois, sur l'île de Man. Le détail dans un instant. Jacques Monin. Une surtaxe de 5 milliards d'euros pour les grandes entreprises. La mesure a été votée cette nuit à l'Assemblée. Elle compense en partie la suppression de la taxe sur les dividendes censurée par le Conseil constitutionnel. Des dizaines de députés qui débarquent en prison. Descente surprise de parlementaires hier dans toute la France. Ils voulaient constater par eux-mêmes les conséquences de la surpopulation. Dans 20 minutes, Nicolas, un plateau littéraire de choix que vous offrez aux auditeurs de France Inter, le Goncourt et le Renaudot réunis dans ce studio.
Mais oui, c'est toute la République des Lettres qui s'installe sur Inter. 8h20, Éric Vuillard, Olivier Guèze rejoint à 8h40 par Bernard Pivot, monsieur le président de l'Académie Goncourt. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, comment se relancer quand on a tout perdu. France Inter s'est procuré les conclusions de la grande consultation menée au sein du parti Les Républicains. Des fenêtres qui chauffent, des matériaux dernier cri. On vous présentera la maison de demain. Et puis le duel Borg-McEnroe en version cinéma. Balle neuve à la fin de ce journal. Après les politiques hier, place aux entreprises. Ce matin, nouvelle révélation donc dans le dossier des Paradise Papers. Cette enquête mondiale menée par un consortium d'une centaine de médias, dont la cellule d'investigation de Radio France, ce sont désormais des géants de l'économie qui sont ciblés. Le groupe Apple, dont on connaissait déjà le goût pour l'évitement fiscal, l'équipementier Nike, qui utilise un montage financier pour ne quasiment plus payer d'impôts en Europe. Et c'est donc désormais un groupe français qui est montré du doigt. Bonjour Jacques Monin.
Bonjour.
Dassault est soupçonné d'avoir fermé les yeux sur les pratiques de certains de ses clients.
Oui, sur l'île de Man, vous savez, là où a éclaté l'affaire Hamilton. Alors, il y a deux questions en fait différentes. D'abord, on peut se demander si Dassault ne vendait pas des avions à des clients qui cherchaient avant tout à éviter de payer la TVA à travers des montages douteux, et ce, en toute connaissance de cause. Un exemple, l'homme d'affaires russe Oleg Tinkov, il a acheté 3 avions Falcon à Dassault, en passant par l'île de Man avec toujours ce schéma. Une société achète l'avion, puis elle le loue à une autre. Tinkov est donc exonéré là de 18 millions quand même d'euros de TVA. Sauf que comme derrière chacune de ces sociétés se cache le même propriétaire, eh bien l'activité commerciale est fictive et donc il aurait dû payer la TVA. Et quand on regarde bien les documents que nous avons consultés avec nos confrères du Monde, eh bien on voit que Dassault connaissait ce montage et à aucun moment il n'interroge son client sur le côté artificiel de l'opération. Au contraire, il le conseille pour lui faciliter la livraison du jet.
Dassault aurait donc fermé les yeux, mais ce n'est pas tout. On se demande aussi s'il n'a pas utilisé lui aussi ce système.
Bah oui, parce qu'en 2008 et 2012, Dassault a créé 7 filiales sur l'île de Man, des filiales qui n'ont pas duré longtemps d'ailleurs, toutes dirigées par des cadres du groupe, des filiales qui ont acheté des avions à la maison mère pour ensuite les louer à d'autres filiales Dassault avant de revendre ces avions à d'autres clients ailleurs dans la communauté européenne. Donc on se demande là encore pourquoi avoir créé une telle usine à gaz sinon pour être exempté de TVA. Là-dessus, Dassault nous a fait une réponse évasive expliquant que c'est et je cite, pour répondre aux besoins de financement de clients dans un contexte de crise financière.
Et cette lettre de Dassault, vous la retrouvez en intégralité sur franceinter.fr, de même que toutes les autres révélations de ce dossier. Merci Jacques Monin. On file maintenant aux Pays-Bas, plus précisément devant le siège européen du groupe Nike, lui aussi dans la tourmente. Depuis que les Paradise Papers ont révélé que le groupe était un champion de l'optimisation fiscale. Là encore, le montage est très complexe, mais le résultat est très simple. Quasiment pas d'impôts payés en Europe. Bonjour Philippe Randé.
Bonjour.
Vous avez sondé les salariés du groupe.
Oui, ils sont 2500 de 70 nationalités et ils ne sont pas loquaces quand on évoque le paradis néerlandais de leur employeur. Seule une jeune brésilienne un peu gênée a accepté de s'exprimer très brièvement. Je suis sûr que Nike n'est pas seul à faire ça. De nos jours, il n'y a rien de choquant. Au milieu des terrains de basket et des bureaux ultra-modernes, Mesut, lui, a ses habitudes. Il habite de l'autre côté de la route et il est d'accord à la virgule près, si j'ose dire, avec la direction de Nike qui estime respecter pleinement la législation fiscale. Je ne suis pas vraiment choqué. Nike, c'est une bonne chose pour nous. On leur pardonne tout. Tout le monde veut venir travailler ici. C'est bon pour la ville d'Hilversum. Autour, là, il y a des écoles, des terrains de sport et le quartier est vraiment super. Moi, je viens chez Nike quasiment tous les jours et j'ai beaucoup de bons amis qui y travaillent. Face à nous ici, comme un pied de nez à l'actualité, deux grands drapeaux néerlandais et américains flottent devant l'entrée du site, comme pour rappeler le système de double domiciliation aux Pays-Bas et aux États-Unis qui permet à Nike d'échapper à l'impôt sur les bénéfices. De quoi énerver Oswald, hôtelier à Hilversum. C'est pas bon pour l'économie, mais je pense que notre gouvernement va faire changer ce système. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le problème, c'est que d'autres pays européens risquent d'en profiter pour attirer les multinationales en baissant leurs taxes. Ce que fait Nike est injuste, mais c'est légal. Ils se servent des failles dans nos lois, et nous, le fait qu'ils soient installés ici, ça ne nous rend pas plus riches. Un peu plus loin, notre habitant nous le dit avec le sourire. Certes, Bruxelles n'est pas loin, mais de toute façon, Nike est plus puissant que l'Union européenne.
Philippe Randet en direct d'Hilversum, près d'Amsterdam, avec Benjamin Thio à la technique.
8h06 en France marque une rustine à 5 milliards d'euros.
Oui, ça fait cher le rafistolage, mais il y avait urgence. Les députés ont adopté hier soir la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. Elles vont payer plus d'impôts cette année. Il s'agit de compenser un gros trou dans les finances de l'État depuis que le Conseil constitutionnel a exigé que le gouvernement rembourse 10 milliards d'euros aux entreprises suite à la censure de l'ancienne taxe sur les dividendes. Bonjour Hélène Philly.
Bonjour.
Ce matin, certaines entreprises doivent se frotter les mains car il y aura des gagnantes dans cette opération.
Oui, il y aura des entreprises qui vont gagner et d'autres qui vont beaucoup perdre. Les gagnantes, et ça a été dénoncé hier dans l'hémicycle, ce sont finalement les entreprises qui versent beaucoup de dividendes, qui attendent aujourd'hui un remboursement conséquent, plus important que ce que va leur coûter la contribution exceptionnelle. Ça représenterait une culbute de 2,6 milliards d'euros pour une quinzaine d'entreprises. En revanche, les banques, les groupes mutualistes qui ne paient pas ou peu de dividendes, qui n'étaient pas visés par la taxe initiale, seront eux directement frappés par la nouvelle taxe sur les bénéfices. Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'Épargne et Crédit Mutuel ont fait leur compte. Ils évaluent la surcharge fiscale à 1 milliard d'euros et ils se désolent. On pénalise les entreprises qui opèrent en France, créent des emplois au profit de celles qui préfèrent investir à l'étranger.
Même avec cette nouvelle taxe, Hélène, il reste tout de même 5 milliards à trouver.
Et c'est le contribuable qui va boucler la note. Le gouvernement a provisionné 5,7 milliards sur 5 ans. Forcément, hier, les députés s'en sont émus à l'Assemblée. Et si l'ancienne majorité est pointée du doigt, il y a eu comme un mea culpa collectif. Il faut donner plus de temps au Parlement pour accroître la légitimité des mesures, en mesurer l'impact. Légiférer moins, légiférer mieux, s'éviter un tel scandale. Parce que là, entre les entreprises victimes qui paieront la moitié du préjudice subi et les Français qui régleront l'autre moitié de la note, Bruno Le Maire l'a reconnu hier, ce n'était pas son meilleur lundi.
Merci Hélène Philly. Il voulait voir d'eux-mêmes les matelas sur le sol, la vie des détenus, celle des gardiens également. Une trentaine de députés membres de la commission des lois ont donc mené des visites surprises hier dans 26 prisons françaises. Les Baumettes, Bois d'Arcy, Fresnes, c'est l'une des prérogatives des parlementaires qui voulaient voir la réalité derrière les chiffres. Corinne Audouin.
La promiscuité en prison, la vétusté, les difficultés du personnel. Naïma Moutchou, députée LREM du Val d'Oise et avocate de formation, connaît bien le sujet. Elle a visité la maison d'arrêt d'Ony avec un élu pour qui c'était une première, indispensable, dit-elle.
Tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. On a visité des douches, on a visité des cellules et tout ça est dans un état de délabrement malheureusement assez avancé. Beaucoup de bruit, de portes qui claquent, de cris également. Puis le personnel pénitentiaire qui a envie de parler et de s'exprimer. J'ai rencontré tout à l'heure une dame qui s'occupe du quartier des arrivants. Elle est toute seule à gérer 43 arrivants. Il lui est arrivé d'en avoir 58. Voilà, et à chaque fois on se prend ça un petit peu dans la figure.
Le constat n'est pas nouveau, mais la surpopulation carcérale continue de grimper. 15 000 nouvelles places de prison sont déjà prévues. Alors quoi de neuf cette fois? Une approche plus pragmatique, promet Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois.
C'est le moment idéal pour pouvoir réfléchir vraiment sur le sens de cette détention. Il ne s'agit pas juste de parler du bien-être des détenus, mais c'est aussi les conditions de travail des surveillants qui sont particulièrement dégradées. Et c'est aussi la réinsertion et donc la récidive qui est en jeu. Et ça, c'est un enjeu majeur pour toute la population.
Et après la séquence immersion, les députés se retrouveront demain pour échanger leurs impressions.
Des messages de haine, des appels au meurtre. Le parquet de Paris ouvre une enquête suite aux menaces reçu par Charlie Hebdo dans la foulée de sa une de la semaine dernière. On y voyait l'islamologue Tariq Ramadan en érection sous son pantalon, sous le titre « Je suis le sixième pilier de l'islam », allusion aux deux plaintes pour viol déposées contre lui.
Inter 8h10, il y a un an, les sondages lui promettaient quasiment l'Elysée, mais depuis, la droite n'en finit plus de se chercher.
Il y a eu le choc de l'affaire Fillon, la claque de la présidentielle, c'est désormais la reconstruction. Avec cette question, qu'est-ce qu'être de droite? Les 230 000 militants des Républicains ont été interrogés, 40 000 d'entre eux ont répondu et France Inter a pu se procurer les conclusions de cette grande séance de thérapie collective qui seront dévoilées officiellement ce matin. Antoine Sabag.
La première préconisation reprend un avertissement des militants. Ils veulent en finir avec l'image d'une famille politique qui se déchire et retrouver, je cite, l'esprit de compagnonnage des premières heures du gaullisme. La guerre Fillon-Copé n'est donc pas oubliée, la bataille des primaires non plus. Voilà pourquoi 70% des militants qui ont répondu au questionnaire ne veulent plus de primaires à droite. En guise de débat, le rapport préconise plutôt la création d'une plateforme numérique censée favoriser l'expression des différentes sensibilités. Ce qui ressort aussi de la consultation, c'est la nécessité pour Allaire de clarifier sa position sur l'Europe et aussi d'affirmer une ligne politique libérale gaulliste. Elle reposerait sur trois grands piliers. La liberté d'entreprendre, l'État avec une priorité sur la sécurité et troisième axe, la culture française, notion préférée à celle d'identité. Enfin, et cela sonne comme une mise en garde à l'encontre de Laurent Wauquiez, très probable futur patron de la droite, le rapport préconise que les Républicains mènent une réflexion sur l'islam en se gardant de tout discours simpliste, mais aussi que les questions sociétales, mariage pour tous, filiation ou GPA, ne prennent pas trop de place.
Là aussi, c'est une forme de conclave. Les évêques de France sont réunis en ce moment à Lourdes, c'est leur conférence annuelle, et sous l'effet du pape François, ils sont peut-être en train de changer de stratégie pour peser dans les grands débats de société. Mathilde Dehimi.
Les évêques de France sont inquiets, ils espèrent peser sur les débats de société, mais en changeant de méthode, plus de rejets fermes et négatifs, remarque Odon Vallée, spécialiste des religions, mais plutôt des séries de questions.
Est-ce que vraiment l'avortement, ça rend plus heureux? Est-ce que la procréation médicalement assistée, ça rend plus heureux? Est-ce que l'euthanasie, ça va rendre plus heureux? Les évêques pensent que non, mais ils pensent qu'il ne faut pas d'interdit, il faut plutôt des interrogations.
Les évêques se cherchent aussi de nouveaux relais dans une assemblée nationale renouvelée. Oubliez les slogans de la manif pour tous, l'Église catholique veut faire entendre sa voix plus en douceur en produisant des argumentaires précis. Jean-Louis Schlegel, philosophe et directeur de la revue Esprit, y voit l'influence du pape François.
Il y a une inflexion dans le ton de Mgr Pontier, le président de la conférence épiscopale. Il essaye de dire quand même, on voudrait entendre les difficultés, les questions qui sont posées. Il y a quand même le phénomène du pape François qui insiste toujours pour dire attention, nous devons toujours tenir compte en rappelant la loi, qu'il y a des gens qui souffrent, qui ne comprennent pas très bien pourquoi le sort est malheureusement tombé sur eux d'une infertilité, par exemple, et donc il peut y avoir ça.
Il n'y a pas de voie unique chez les catholiques, traversée par les mêmes interrogations que le reste de la société sur ces sujets sensibles.
Reportage Mathilde Dehimi en Italie, c'est le grand retour du sphinx. Silvio Berlusconi, 81 ans, revendique la victoire en Sicile lors d'un scrutin régional. Il avait pris la tête d'une coalition de centre-droit, première marche peut-être vers un retour sur la scène nationale lors des élections générales prévues en mai prochain.
Et à quoi ressemblera donc la maison de demain?
Sans doute plus verte, Nicolas, moins gourmande en énergie également pour le savoir. Philippe Lefebvre a sillonné les allées du salon Batimat qui se tient en ce moment près de Paris. C'est le rendez-vous des professionnels avec quelques trouvailles qui orneront peut-être les maisons du futur.
La rénovation énergétique, c'est le marché de l'avenir pour les professionnels du bâtiment. Deux chiffres pour s'en convaincre. D'ici 2050, il y aura 20 millions de logements à rénover en France pour un chiffre d'affaires total de plus de 14 milliards d'euros. Et dans ce domaine, l'imagination est au pouvoir comme dans cette start-up du Mans qui transforme les vitres en radiateurs. Manuel Dariussec est le gérant de l'entreprise.
Elle fait radiateur et elle peut remplacer tout ou en partie les systèmes de chauffage existants. C'est-à-dire que l'on peut effectivement remplacer la totalité des radiateurs, sol ou classique, et pouvoir, dans ces cas-là, se substituer à tout autre moyen de chauffage. Et ce qui est important, c'est sans déperdition extérieure.
Et côté isolation, tous les matériaux sont utilisables, même les plus insolites. C'est le cas dans cette menuiserie alsacienne qui fabrique des entourages de fenêtres. Christophe Buber est le directeur de l'entreprise.
Cette menuiserie, elle est isolée avec, naturellement, du bois de pin, avec ici du liège, vous avez la laine de bois et vous avez la laine de mouton. donc que des matériaux biosourcés pour avoir vraiment un impact sur l'environnement le plus faible possible avec le meilleur rendement possible pour le consommateur.
Et si tous les dispositifs qui arrivent sur le marché sont encore assez onéreux, comptez par exemple 600 euros pour un mètre carré de vitre chauffante contre 50 euros pour la même surface de vitre ordinaire, ils permettent malgré tout de réaliser au moins 30% d'économie sur les factures de chauffage.
Voilà qui ne devrait pas rassurer les amateurs de bronzettes artificielles. Plus de 60% des cabines de bronzage ne sont pas aux normes en France. C'est la répression des fraudes qui l'indique après avoir visité un millier d'établissements. Les principaux griefs concernent la sécurité des appareils et le manque de formation des employés. Enfin, c'est reparti pour un tour. Les forains bloquent à nouveau plusieurs grands axes d'Île-de-France. On fera le point sur la circulation dans quelques instants, Nicolas.
Et on termine par un duel au cinéma.
Si je vous dis Wimbledon 1980, le duel des titans. D'un côté, le volcan McEnroe. De l'autre, la glace Borg. Finale mythique que le cinéma revisite avec un film qui sort demain. Voilà qui nous ramène au temps des raquettes en bois et des petites balles blanches. Souvenir signé Fabrice Abgral.
Bjorn Borg et John McEnroe sont à l'origine du tennis moderne. Ils ont démocratisé ce sport, ils l'ont rendu populaire et médiatique. Borg et McEnroe ont révolutionné le tennis par leur style de jeu et leur personnalité diamétralement opposée. D'un côté, John McEnroe, un gaucher américain au tennis hors norme, pas du tout académique. McEnroe, c'est le rebelle irascible, un génie sans gêne, caractériel, connu pour ses colères devenues légendaires avec les arbitres.
You can't be serious, man. You cannot be serious.
Et puis il y a Bjorn Borg, un Suédois. Lui, c'est le métronome, inventeur du lift, introverti, une machine à gagner sans faille, un être froid sans émotion. Et cet aspect-là, Borg l'a expliqué à la télé en 1978.
Sur les courts, tout le monde dit que je suis une machine, que je n'ai pas d'émotion, de sentiments, que je ne laisse rien voir sur mon visage. Mais sur les courts, il faut que je sois comme ça, parce que si je veux bien jouer, il faut que je sois concentré. Et ça, c'est moi sur les courts.
Borg, c'est la première rockstar du tennis, adulée par des groupies hystériques. McEnroe, lui, c'est le sale gosse, celui qu'on aimait détester. Leur rivalité n'a duré que 4 ans, mais elle a été intense. Une époque révolue, mais si le tennis en est là aujourd'hui, c'est grâce en partie à Borg et McEnroe.
Fabrice Abgral, Borg McEnroe, demain au cinéma, Nicolas.
Merci Marc Fauvel.